Nous commençons donc ces trois jours, habituellement, par cette heure sainte. Et aujourd'hui, nous avons la chance de fêter plusieurs événements, plus ou moins connus. D'abord, nous fêtons la présentation de Jésus au Temple, 40 jours après Noël. C'est d'abord une fête du Christ, Jésus, lumière du monde, qui brille dans les ténèbres, qui va être reconnu par Siméon comme la lumière des nations. Donc il y a un achèvement du cycle de Noël, du cycle de la lumière, on pourrait dire, avec cette proclamation des nations, avec cette pas cette proclamation des nations, ça a déjà eu lieu à l'Épiphanie, mais avec cette proclamation de Siméon, lumière pour éclairer les nations. Déjà dans le prologue, on entendait le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme. La lumière a brillé dans les ténèbres. Et nous contemplons le Christ, lumière du monde, qui entre dans le temple, qui vient se donner au Père. Avec donc cet événement, peut se joindre une deuxième fête aujourd'hui, c'est la fête des consacrés. Donc, bienvenue à toutes les consacrées qui sont parmi nous, les consacrés, il peut y avoir des hommes consacrés aussi, mais aussi les femmes consacrées qui nous ont rejoints, religieux, religieuses, toutes celles qui ont livré leur vie au Christ, d'une certaine manière, toutes celles qui, après le Christ, qui est rentré dans le temple, eh bien, se sont joints au Christ pour s'offrir à leur tour par une vie totalement donnée pour la sanctification du monde à Dieu le Père. Voilà, ils accomplissent à la fois la figure du Christ qui déjà vient vers son Père en lui disant « Me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté ». Avec le Christ, elle s'offre au Père et elle s'offre au monde. Il s'offre au Père, il s'offre au monde. Ils accomplissent aussi d'une certaine manière la figure de Anne et Siméon, signe de la fidélité d'Israël et de la réponse amoureuse du peuple pour son Dieu. Avec tous les consacrés, eh bien, c'est un appel pour chacun de nous à nous mettre en route aussi, à être signe, à suivre le Christ à notre tour, en nous unissant à Jésus, à Marie et aux saints qui nous ont précédés. Les consacrés entrent dans ce chemin de se laisser saisir par la lumière et de connaître la lumière. C'est aussi un appel à être la lumière du monde, puisque Jésus le dit, « Vous êtes la lumière du monde ». Et les consacrés peuvent aussi être une lumière pour nous-mêmes, dans notre propre chemin. À l'image du Christ pauvre, chaste et obéissant, elle nous renouvelle dans l'appel à la sainteté. Elle nous indique que nous sommes mis à part. La vie consacrée peut, elle aussi, passer par une union à Jésus, non seulement dans les noces, mais aussi dans les épreuves. Elle n'échappe pas aux épreuves et à l'aridité et aux ténèbres. Le Christ est la lumière qui brille dans les ténèbres, et les consacrés, signes de cette lumière, lumière du monde, peuvent aussi passer par les ténèbres. Mais, comme le Christ, elles peuvent être signes de la fidélité de Dieu. Troisième élément, troisième fête que nous célébrons en ce jour, qui est moins connue, nous sommes le 2 février, c'est le jour de l'anniversaire de Saint-Claude, la Colombière. Dans 15 jours, nous célébrerons la mort de Saint-Claude, mais aujourd'hui, c'est le jour de sa naissance. On pourrait chanter joyeux anniversaire, mais on va rester sobre. Nous sommes dans une chapelle. Donc, Claude est né un 2 février, et tout au long de cette année, nous voulons honorer Saint-Claude dans ce chemin qui nous prépare à Paris 2020. Et après l'année de la miséricorde, où on a pris le temps de plonger dans la miséricorde du Seigneur pour nous, et on le fera toute notre vie, je pense, eh bien, nous voulons rentrer dans cette année avec Saint-Claude dans la joie d'être disciple. Voilà, le disciple qui suit son maître. Alors, Saint-Claude est né dans la banlieue de Lyon, à Saint-Symphorien-d'Ozon, et il va très vite reprendre la devise familiale, sans réserve, pour la compléter un petit peu, sans réserve, tout à Dieu. Claude va se mettre en route, il va être une belle expression d'une vie donnée que la Providence conduira à Paray le Monial pour être non seulement le fidèle serviteur, pour être non seulement le parfait ami de Jésus, selon les mots mêmes de Jésus, mais pour être aussi l'apôtre de son sacré cœur. Alors qu'il peut être marqué par le jansénisme de son temps, Claude saura faire de la confiance en Dieu et de la confiance en sa miséricorde sa marque. J'aimerais dès maintenant, pour tous ceux qui nous rejoignent ou qui nous entendent, ancrer nos paroles dans ces dernières paroles de Claude, dans une de ses dernières lettres. Donc, un peu l'héritage qu'il nous laisse. « Pour moi, je vous glorifierai, Seigneur, en faisant connaître combien vous êtes bon envers les pécheurs. et que votre miséricorde est au-dessus de toute malice, que rien n'est capable de l'épuiser, que nulle rechute, quelque honteuse et criminelle qu'elle soit, ne doit porter un pécheur au désespoir du pardon. Alors certains d'entre vous étaient déjà venus l'année dernière, ils reviennent avec joie, et peut-être que depuis l'année dernière, où ils sont partis pleins de feu en disant « Seigneur, ça y est, cette fois je te suis pour de bon », eh bien en un an, ils se disent « Ah, il y a quand même eu quelques rechutes, et peut-être quelques tentations de découragement ». Et saint Claude nous redit au début de cette nouvelle rencontre, eh bien, nulle rechute, quelque honteuse et criminelle qu'elle soit, ne doit porter un pécheur au désespoir du pardon. Je vous glorifierai en faisant connaître combien vous êtes bon pour les pécheurs. Voilà aussi une marque du repos que nous venons chercher à Père Monial. Bien que pécheurs, nous voulons nous reposer dans cette miséricorde, revenir sur le cœur de Jésus qui veut nous laver de toute faute et nous replonger dans son amour. Alors, vous voyez, à la radicalité et à l'engagement du disciple qui veut aimer son maître sans réserve, eh bien, Claude ajoute l'appel à la miséricorde pour tous les pécheurs. Alors, ce n'est pas un appel à rester dans le divan, comme dirait le pape François, mais c'est bien une invitation dans la confiance à mettre ses crampons et aller sur le terrain. Alors, là, vous avez 3 jours de divan, peut-être un peu plus. Mais l'enjeu, c'est le terrain de foot qui vous attend à l'arrivée, enfin le terrain de votre vie quotidienne. Vous voyez, l'enjeu du disciple n'est pas de rester assis, mais de se mettre en route. Le 2 février est encore une autre date pour saint Claude, puisque c'est le jour où il va faire sa consécration ultime dans la compagnie de Jésus, et qui va préparer son envoi en mission ici à Père Monial. À travers tous ces différents éléments, j'aimerais rentrer dans cette heure sainte. Donc vous savez que l'heure sainte, c'est cet appel à accompagner Jésus dans son agonie, donc en reprenant un peu ce thème de la lumière qui brille dans les ténèbres, qui parcourt la fête d'aujourd'hui, le temps de Noël, la figure du Christ, la figure des consacrés, lumière du monde, et aussi cette belle figure de Claude qui lui-même aura été traversé par plusieurs ténèbres. Alors ça peut sembler un peu difficile de commencer une rencontre à Paris par un thème par le fait d'évoquer les ténèbres, mais en même temps c'est peut-être ne le voyez pas forcément comme un appel difficile, mais au contraire comme un appel à plonger dans ce qui fait notre réalité, peut-être à mettre directement le point sur ce qui peut être difficile dans notre vie pour y voir une espérance, pour voir que la lumière peut briller dans les ténèbres. Et voilà une lieu d'espérance dans lequel nous voulons rentrer. Donc, parcourir le thème de l'agonie qui nous rassemble chaque jeudi soir de manière spirituelle, mais une fois par mois, plus physiquement ici dans cette chapelle ou en communion avec les auditeurs de Radio Espérance, et pour rentrer dans cette heure sainte. Alors, premier aspect, je prendrai d'abord la figure du Christ. Le Christ, le Verbe fait chair, la lumière qui brille dans les ténèbres. On contemple aussi aujourd'hui le vieux Siméon qui s'exclame que Jésus est la lumière pour éclairer les nations. La lumière qui brille s'est manifestée dans les ténèbres et nous avons vu sa gloire, pourrions-nous dire. Dans le contexte de l'heure sainte, on peut voir plusieurs résonances. D'abord, nous accompagnons Jésus dans son agonie et c'est particulièrement l'heure où Jésus entre dans les ténèbres. Vous voyez, et Jésus va... On peut très vite regarder, ah c'est beau, la lumière va briller dans les ténèbres, enfin on va voir la grande lumière, mais de prendre le temps d'entrer dans ces ténèbres, c'est pour Jésus, c'est une heure d'une très grande solitude, c'est l'heure de l'angoisse, de la nuit obscure, l'heure où on va le voir suer des gouttes de sang tellement il est angoissé, tellement l'épreuve en lui-même est aride. Et nous venons pour être avec lui, pour accompagner notre ami agonisant. Mais nous contemplons cela. Jésus est passé par les ténèbres, il est passé par l'agonie, il est passé dans les ténèbres, dans l'aridité, dans l'obscurité des ténèbres. Il a choisi, lui, la lumière du monde, de rejoindre ces ténèbres. Or, dans ces ténèbres a brillé la lumière. Comment Jésus, eh bien, vient habiter les ténèbres? Jésus va rejoindre le monde des agonisants avec une parole étonnante. Ça va être son abandon à la volonté du Père. Quand le Christ est au cœur des ténèbres, il dit « Non pas ma volonté, mais la tienne ». voyez, il ne dit pas « Oh là là, c'est les ténèbres, je m'assois et je, ou je m'écarte des ténèbres. Je rentre et je traverse les ténèbres avec cette parole forte, non pas ma volonté, mais la tienne. Je viens faire la volonté du Père. » Il se remet totalement au Père, dans le don de lui-même. Et voilà comment le Christ est lumière. Dans l'agonie, il n'y a rien de lumineux, il n'y a rien qui brille. Mais cette lumière est profondément intérieure. Jésus rentre dans la volonté du Père, et là, il dépasse tout ce que l'on peut attendre. Et il ne sera pas d'ailleurs saisi par les ténèbres, dans un double sens sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Pour bien comprendre cette place, je vous invite à regarder Adam. Adam, dans le paradis, il n'est pas dans les ténèbres. Il est dans la lumière, il a tout pour lui, tout va bien. Et dans cette joie et cette, on pourrait dire, dans ce bonheur, dans cette opulence qui peut entourer sa vie, il va rentrer dans cette désobéissance. Il va s'écarter de Dieu. Et là, nous voyons Jésus dans un contexte inverse, là où il n'y a plus rien, là il n'y a plus aucune attache, là où il sait même plus où est Dieu, là où il sent l'abandon du Père. Il pourrait à plus forte raison dire « Seigneur, je m'écarte de vous ». Eh bien, au moment où il n'a plus rien, il dit « Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne ». Jésus est le nouvel Adam. Si le vrai Fils du Père qui fait la volonté du Père, voyez, et il vient nous chercher au cœur même du moment de sa vie qui est le plus aride, c'est à ce moment-là qu'il dit « Non pas ma volonté, mais la tienne ». C'est à ce moment-là qu'il répond à Adam. Alors nous-mêmes, nous pouvons être plongés dans ces épreuves, ces ténèbres, ces difficultés, ces agonies, et sans aucune consolation autour de nous, nous pouvons nous appuyer sur le Christ pour nous aider à dire « Seigneur, non pas ma volonté, avec toi, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne ». Deuxième figure, aujourd'hui, le vieillard Siméon. Siméon n'a pas saisi la lumière, il l'a attendue. Et on pourrait dire qu'il l'a attendue très longtemps. L'attente de Siméon de la lumière du Christ me semble tellement forte qu'il semble qu'il y ait comme un certain soulagement dans ce cantique des Siméons que les prêtres et les consacrés prient chaque soir. Maintenant, souverain maître, tu peux, selon ta parole, laisser ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. Je vous invite à une lecture peut-être un peu plus originale, mais Saint Siméon ne commence pas en disant « Ah, mais c'est extraordinaire, ça y est, je l'attendais, je le vois. Le bébé est là, le Messie est arrivé, quelle joie extraordinaire !» Vous voyez ? Normalement, j'ai envie de dire, il sait que Jésus doit venir, il l'attend, il dit oh, « Merci Seigneur, je le vois ». Il dit « Maintenant Seigneur, tu peux me laisser me reposer ». Mais Seigneur, normalement, je ne devrais pas dire ça. Je devrais dire « Oh, est-ce que je peux le garder un peu plus longtemps ?» Comme s'il y avait une fatigue du vieux Siméon d'attendre. Vous voyez, la longue fidélité de Siméon, qui n'a pas forcément été... très heureuse ou très joyeuse. Et il dit, maintenant, tu peux me laisser m'en aller, me reposer. Seigneur, j'ai hâte de me reposer. Et vous voyez, il ne se réjouit pas tant de la présence de Jésus que de l'accomplissement de la parole. C'est étonnant. Alors, pour Siméon, qu'est-ce qui va peut-être, donc c'est une interprétation que je vous propose, hein, mais qu'est-ce qui va l'aider à traverser cette épreuve du temps ? Comment il va pouvoir aller fidèlement jusqu'à cette venue de Jésus qui a pu être longue, hein? Alors les plus jeunes d'entre nous, on part avec enthousiasme, mais peut-être que les plus anciens se disent « Est-ce que je vais être fidèle jusqu'au bout ?» Et à un moment, ils disent « Ça y est !» Comme dit saint Paul dans l'Épître à Timothée, « Je suis resté fidèle jusqu'au bout. » Voilà, j'ai tenu bon. Et eh bien, ce qui tient bon pour Siméon, ce qui l'aide à porter et avancer dans le temps, c'est « Selon ta parole. » Voilà. Tu peux, selon ta parole, laisser ton serviteur s'en aller en paix. Selon ta parole, Seigneur, ce qui m'a fait avancer, c'est cette espérance en cette parole que tu m'as donnée. Je verrai le salut, et donc j'ai avancé sans cesse avec cette parole que tu as posée dans mon cœur, et j'ai pu traverser l'épreuve. J'ai pu être lumière dans les ténèbres, de me dire, est-ce que cette parole va s'accomplir un jour? Tu m'avais promis ça et je ne vois rien venir, ça fait 40 ans, 45 ans. On pourrait relire la vie d'Abraham aussi, hein, la promesse faite à Abraham, qui ne s'accomplit pas en un jour, mais en 25 ans. Est-ce que certains prient pour une intention depuis 25 ans parmi vous? Vous voyez, est-ce que Dieu leur dit, oui, tu verras le salut? Mais il ne vous a pas dit, tu verras le salut demain. Tu verras le salut dans 25 ans. Et Abraham ne sait même pas que c'est dans 25 ans. Au bout de 22 ans, Abraham aurait pu se dire, maintenant j'arrête. Parce que je n'y crois plus. Je suis pris dans les ténèbres et dans la crise de la foi. Et Seigneur, je ne sens plus rien et je ne vois plus rien. Alors j'ai envie de dire, j'abandonne. Le monde me pousse à dire, arrête. Tu ne vas pas quand même rester fidèle dans ta paroisse. Et moi, je n'ai plus d'attache humaine. Physiquement, je ne sens plus rien qui me vit à rester. Et selon ta parole, Seigneur, eh bien, je persévère dans ce chemin. Pour Anne, la prophétesse, c'est un peu différent. On dit, justement, elle, il me semble l'attitude est plus juste, Jésus arrive et dit, on dit, elle louait Dieu et elle parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Ça, c'est plus posé, ça y est. Voilà. Alors cette femme, pour le coup, on peut dire qu'elle a attendu un petit moment aussi, puisqu'elle a 84 ans, et elle est dans le temple sans cesse. Comment elle va vivre cette fécondité, cette manière d'être lumière au cœur de cette vie qui a pu être compliquée? Eh bien, on nous dit que Anne, après 7 ans avec son mari, était restée veuve, parvenue à l'âge de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple, servant Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Ce qui va aider Anne à traverser l'épreuve, peut-être à traverser des ténèbres, ce sera sa fidélité à demeurer dans le temple. Demeurer dans le temple, comme demeurer dans l'église. Demeurer dans le temple, dans le jeûne et la prière. Je me souviendrai longuement d'une paroissienne lors de ma première nomination à Paris, où une femme, elle était portugaise, était toute la journée dans l'église. À un moment, on se disait, ça fait quand même beaucoup. Elle dit, non, c'est là que je dois être. Elle avait aussi traversé des épreuves, elle portait encore des épreuves, une séparation, des difficultés différentes, voilà. Et elle était là, et fidèle, elle accrochait à son chapelet, sûrement dans la grâce de Fatima, elle intercédait pour les âmes. Et elle demeurait dans le temple jour et nuit. Pas nuit parce qu'on fermait les portes. Mais elle demeurait longuement, vous voyez, cette fidélité qui va l'aider aussi à avancer, à traverser l'épreuve. Siméon va annoncer une prophétie pour Marie, vous voyez, en lui disant, toi aussi, un glaive te transpercera l'âme. Et donc, sans le définir comme un temps précis, il annonce aussi que Marie devra passer par les ténèbres. Ton âme sera transpercée. Donc pas des ténèbres extérieures, mais très intérieures. Et comment Marie va-t-elle traverser ces ténèbres? Vous voyez, vous avez un enfant et vous savez qu'un glaive va vous traverser l'âme. Eh bien, il me semble que la réponse de Marie pour traverser l'épreuve, ce sera dans cette autre parole que Jésus, enfin de l'Écriture, mais qui sera soutenue par Jésus. Marie gardait tous les événements dans son cœur. C'est la place de la mémoire. Marie garde les événements dans son cœur et ce qui peut l'aider à traverser la croix, l'agonie, eh bien, c'est cette mémoire de ce qu'elle a reçu de Dieu, cette assurance des paroles que Dieu lui a données. Vous voyez, pour nous aussi, frères et sœurs, peut-être que dans les épreuves que nous pouvons vivre, eh bien, par l'intercession de la Vierge Marie, nous pouvons aussi nous appuyer sur la mémoire de tous les bienfaits reçus, de ne pas oublier, de garder dans notre cœur. Comme dira Jésus, qui est ma mère et mes frères? Ce sont ceux qui écoutent la parole et qui la gardent. Ce sont ceux qui gardent mes commandements. Vous voyez, Marie est profondément celle qui écoute la parole et qui la garde. Dernière figure donc pour aujourd'hui, cette figure de Saint Claude. Saint Claude qui lui aussi vivra plusieurs agonies durant sa vie. Sa vie n'a pas été seulement faite de consolation, de rencontres et de douceur. Mais il vivra deux épreuves, notamment après son passage à Paris, l'épreuve de l'agonie londonienne, j'ai envie de dire, et l'épreuve de l'agonie de la maladie. Deux épreuves pour avancer, dans lesquelles il va demeurer fidèle et persévérer. Donc l'agonie londonienne, c'est qu'il va être nommé, ça peut être glorieux à première vue, que Claude, après sa nomination d'aumônier ici de jeunes, puis d'aumônier des sœurs, soit envoyé près de la duchesse d'York à la cour du roi d'Angleterre. On dit ça, quelle belle promotion, mon père, c'est extraordinaire, cette nomination que vous venez de recevoir. Sauf que le contexte en Angleterre, c'est que l'Église catholique est persécutée et que beaucoup de catholiques traversent la rue d'Oxford Street, pour ceux qui la connaissent, pour aller jusqu'à Tyburn Tree, à l'arbre de Tyburn, pour y être pendus. Et donc se retrouver catholique dans ce contexte-là, aumônier de la reine, n'est pas un contexte de promotion réjouissant. Et Claude devra traverser aussi cette épreuve. Lorsqu'il la traversera, notamment en passant par la prison londonienne, et si lui, en tant que Français, ressortissant français à l'étranger, peut avoir une précaution particulière, il passera quand même par la prison londonienne, puis il reviendra en France. De retour en France, alors qu'il est malade, il écrira une lettre à une religieuse en lui parlant de cette question de l'absence de Dieu. Qu'est-ce que vous devez faire lorsque Dieu est absent de votre vie, lorsque vous ne sentez plus Dieu dans votre vie ? Et il écrit cela. L'éloignement où vous vous trouvez de Dieu est un châtiment amoureux. Alors, il faut entendre le vocabulaire. Si vous attachez à un mot, des fois, ça peut être un peu violent chez Claude. Mais en fait, c'est toujours un peu de la provocation rhétorique, vous voyez. C'est un châtiment amoureux. En fait, voilà, c'est le bien-aimé. L'absence où vous êtes de Dieu, vous ne sentez plus Dieu dans votre vie. Et c'est comme un châtiment amoureux qu'il exerce sur vous. En fait, vous sentez rien ? C'est un beau cadeau que le Seigneur vous fait. C'est une grâce de son amour pour vous. Alors, quand vous commencez à recevoir ça, vous dites, c'est pas très sympa, il y a autre chose un peu après. Et il continue. Si j'étais à votre place, je m'en troublerais point. Et je ne ferais point de grands efforts d'esprit pour me rapprocher. Je souffrirais humblement et patiemment. Alors voilà, je souffrirais. Vous entendez ça, vous dites, je ne peux pas entendre ça. Mais c'est, j'accueille paisiblement cette chose-là sans en rajouter. Quoi. Oui. Je souffrirai humblement et patiemment ces rebuts, ainsi bien que toutes les révoltes des passions que je tâcherai seulement d'empêcher d'éclater au dehors. Donc il fait le constat que vous n'allez pas beaucoup aimer cette situation-là. Ça va être un temps de souffrance, vous allez même avoir envie de le crier au dehors, en disant « Mais Seigneur, je n'en peux plus !» Et je vous invite à l'accueillir paisiblement. En disant, en fait, Seigneur, je ne te sens pas, mais ça fait partie de ton plan. Tu as un projet à travers ça. Voilà. Agissant malgré elle, en tout selon la volonté de Dieu, et recevant comme une pénitence du passé, toute la peine que je sentirai à faire le bien. Ça, c'est un point qui revient souvent chez Claude, c'est, en fait, c'est pas la raison principale, mais j'ai toutes les raisons c'est facile de justifier que Dieu ne me parle pas. Oui, pourquoi Dieu ne me parle pas ? Mais si je regardais un peu ma vie, c'est pas normal que Dieu me parle. Quand je vois toutes les rechutes, quand je vois combien je tombe souvent, qui est Dieu pour s'abaisser jusqu'à moi ? Vous voyez ? Et donc souvent, je ne devrais pas être étonné. Ce qui doit m'étonner pour Claude, c'est que Dieu me parle. Ça doit nous surprendre. On doit dire, mais c'est extraordinaire. Mais Dieu, mais pourquoi tu me parles ? C'est pas possible. Moi, un pauvre pécheur, tu t'adresses à moi. Ça, c'est pas normal. Mais que Dieu ne me parle pas, c'est normal. Est-ce que le saint va aller passer et prendre le temps d'aller visiter le pauvre que je suis ? Vous voyez ? Donc l'attitude de Claude, c'est « En fait, c'est normal que tu ne me parles pas, Seigneur. » Ça, ça devrait être la nature, ça. Et la grâce, c'est que vous veniez me chercher. Et donc je vis la nature des fois quand vous ne venez pas me chercher, et je comprends. Voilà, ce me semble, le meilleur conseil que je puisse vous donner. En le suivant fidèlement, vous trouvez dans le trouble même cette paix que vous cherchez. Et je vous la souhaite entière et parfaite. Vous voyez, dans ce texte, à travers tous ces mots qui peuvent être compliqués, cette finale lance bien l'objectif de Claude. Je veux que vous soyez dans une paix entière et complète. Et pour ça, c'est ne vous troublez pas si vous n'avez pas tout de suite la réponse, comme Monique n'a pas eu tout de suite la réponse de saint Augustin, et qu'elle a dû attendre 17 ans pour voir son fils devenir saint Augustin. 17 ans d'attente. Mais le jeu en valait la chandelle. Elle aussi, elle ne s'est pas arrêtée au bout de 15 ans. Et le fruit, c'est que ce n'est pas seulement devenu Augustin, un bon chrétien. C'est devenu saint Augustin, le plus grand docteur de l'Église, voyez, des premiers siècles. Ah ben, si je savais à l'avance que dans 17 ans, j'aurais une récompense si grande, alors je serais motivé. Mais la grandeur de Monique, c'est qu'elle ne savait pas et qu'elle a persévéré. Donc, dans l'absence de Dieu, au fond, ne pas s'inquiéter. Justement, cette sœur veut être fidèle, veut aimer le Seigneur de tout son cœur, et pas à pas, elle va être invitée à rentrer dans ce mystère de l'union au Christ, aussi dans l'épreuve. La deuxième épreuve que vit Claude, c'est la maladie. Et il la vit jusque ici, puisqu'il meurt ici à Paray-le-Monial, dans cette maison rue de la Paix, en face de la mairie et de la tour Saint-Nicolas, où une plaque rappelle ce lieu. Et Claude va sûrement avancer dans sa manière de comprendre cette maladie. Je ne suis pas sûr qu'il l'apprenne, qu'il soit inconscient de ce qu'il vit, mais déjà quelques années, juste après, en rentrant à Lyon, après sa maladie, il va dire une parole encore étonnante, mais c'est la parole d'un saint, ce n'est pas la parole du père Benoît, donc je vous la livre. Dans une de ses lettres, il dit c'est merveille de voir combien d'avantages temporels et spirituels me sont venus par cette maladie. Je ne les saurais assez admirer ni louer la sagesse et bonté infinie de Dieu qui fait réussir ses aimables desseins par les mêmes voies qui semblent aux hommes devoir tout détruire. Aux yeux des hommes, ce n'est pas possible ça. Et je fais l'expérience dans ma chair que Dieu me donne des avantages spirituels et temporels que je n'imaginais pas du tout. Entendons-nous bien, il ne va pas du tout chercher cela. Il relie cela dans le temps, pour lui en tout cas. Je ne sais pas si on pourrait tous dire pareil. Je n'ai jamais eu tant de joie, jamais je n'ai trouvé Dieu si bon à mon égard que dans le temps que me suis vu dans le plus grand danger de mourir. Je n'aurais pas changé ce péril pour tout ce qu'il y a au monde de plus digne de nos désirs. Donc, le vocabulaire est un peu compliqué, mais voilà, il s'étonne encore d'être vivant, et il dit, après cette épreuve, eh bien, j'aurais pas changé ce péril pour tout ce qu'on aurait pu me proposer d'autre. Mystère de cette parole de Claude. Et à un moment, en écrivant une lettre, il parle d'une personne qui prie pour lui, apparaît. Je suppose que c'est Sainte Marguerite Marie, hein, même si elle n'est pas nommée dans les notes. Mais la personne qui prie pour moi a dit qu'elle était sur le point de ne plus prier Dieu pour moi. Parce que, voyant que plus elle priait, plus mal je me portais. Ah non, mais Seigneur, moi j'arrête. Hein. C'est extraordinaire comme texte. Ouais, je veux bien prier pour les malades, mais alors si c'est pire quand je prie, j'arrête de prier. Hein. Seigneur, tu décides. Hein, mais... Donc elle dit, moi, j'arrête de prier. Il y a un mois et demi que l'étant allée voir, elle me dit que notre Seigneur lui avait dit que si je me portais bien, je le glorifierais par mon zèle. Mais qu'étant malade, il se glorifiait en moi. Je le glorifie par tout ce que je fais de bien, ou Dieu se glorifie en moi-même. Donc vous voyez, ce n'est pas une recherche de la maladie, ce n'est pas une recherche de l'épreuve, parce qu'on peut glorifier Dieu dans toute notre vie. Mais il fait l'expérience de plusieurs manières de glorifier Dieu. Et dans ces ténèbres, parce que je pense que quand même à certains moments, ça a dû être un temps de ténèbres, et un temps de passage compliqué, eh bien, qu'est-ce qui va l'aider à traverser ces ténèbres? Eh bien, c'est cette lumière de cette confiance en Dieu, confiance en la miséricorde de Dieu pour lui, confiance en cette présence de Dieu pour lui même lorsqu'il ne le voit pas, ou confiance que Dieu peut se servir de tout pour que ça porte du fruit. Et Dieu peut se servir aussi bien de ma santé que de ma maladie. Et Seigneur, c'est toi, c'est ton problème. Alors, Marguerite Marie, après ce texte-là, il continue en disant, néanmoins, la personne me recommande extrêmement soin de ma santé. Vous voyez, c'est pas... Oh ben je suis malade et je vais agrandir. C'est pas du tout déraisonnable, hein, c'est vraiment incarné. Non, 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 faites soin de votre santé, et ça va être très concret. Elle dit, elle me conseille de ne plus dire la messe, mais de me contenter de communier tous les jours. Il était au point de ne plus pouvoir se lever. Dieu pourrait bien. Alors, conclusion encore originale, à remettre dans la personnalité un peu particulière de Claude, mais pas. Je pense qu'il ne faut pas le mettre dans un langage janséniste de dire rigidité, aridité, mais plutôt dans un langage aussi moi je mettrais un peu d'humour là-dedans, mais je ne sais pas si on pouvait parler de beaucoup d'humour de ce siècle-là, mais Dieu pourrait bien me renvoyer la santé pour me punir du mauvais usage que je fais de sa volonté, de sa maladie. Sa sainte volonté soit faite. Comme Jésus à l'agonie, qu'il me soit fait selon ta parole. Que ce soit sa volonté. Vous voyez, de dire, je me débrouille tellement mal comme un malade que ça se trouve, il va me guérir. Je suis désolé, Seigneur, tu me donnes la maladie, mais je suis vraiment pas bon. Hein, tu veux. Alors, en l'occurrence, c'est sa dernière lettre. Et c'est l'une de ses dernières lettres. Il ne va pas guérir. Alors, je vous lis un dernier extrait de cette dernière lettre de Claude, justement encore, qui marque cette confiance et cet abandon. « Depuis que je suis malade, je n'ai appris autre chose, si ce n'est que nous tenons à nous-mêmes par bien des petits liens imperceptibles. » En fait, voilà, j'ai conscience que je m'accroche à tout. Que si Dieu n'y met la main, on rompt jamais ses fils. On reste toujours lié à plein de choses. Et on ne les connaît même pas, ces fils qui nous relient au bon Dieu, qui nous relient aux choses terrestres, pardon. Qu'il n'a pas, et c'est là qu'on avance justement dans cette confiance en Dieu. Il dit, en fait, je suis attaché par plein de liens. Qu'est-ce que je peux faire? Il dit, il n'appartient qu'à Dieu de nous sanctifier. Que ce n'est pas une petite affaire de désirer sincèrement que Dieu fasse tout ce qu'il faut faire pour cela. Vous voyez? Je vois bien qu'en fait, Seigneur, eh bien, dans ma maladie, j'expérimente que je veux être tout à toi. Enfin, je dis, je veux être tout à toi, je veux être tout à toi. Mais quand je suis malade, je vois bien que je suis attaché à plein de choses et que mon tout à toi, il n'est pas très, très sincère, en fait. Quand je commence à être dans l'épreuve, c'est plus compliqué. Et donc, je dis que c'est difficile même de désirer, de dire à Dieu que je sois vraiment tout à toi. Vous voyez? Et donc, c'est intéressant pour nous parce que, justement, c'est très incarné. Nous aussi, on a du mal à dire. Claude n'est pas un espèce de héros qui va dire « mais c'est facile ». Non, c'est très difficile de pouvoir dire dans mes épreuves ou dans mon agonie ou dans mes ténèbres « Seigneur, je suis tout à toi ». J'ai envie de tout laisser tomber et de me raccrocher aux choses humaines. Et j'ai du mal de dire même « Seigneur, je le désire d'être tout à toi ». Et il dit « nous n'avons ni assez de lumière, ni assez de force pour cela ». Et donc son attente, elle est 100% en Dieu. Seigneur, tu dois te débrouiller. C'est la dernière lettre qu'il écrit, fin janvier 1682, 15 jours avant sa mort. Donc, comment est-ce que, à travers ces différents éléments et ces lectures de ces personnages qui nous marquent dans ce jour, qu'est-ce que nous pouvons recueillir? D'abord, lorsque nous sommes nous-mêmes dans les ténèbres, utilisons les moyens de nos prédécesseurs. Utilisons ce désir de faire la volonté du Père. Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Utilisons la parole comme les paroles que Dieu nous a données. Essayons de nous accrocher à la parole comme Siméon. Entrons dans le prière et le jeûne. Rentrons dans l'église comme a pu le faire Anne. Et puis, dans les consolations que Dieu nous donne, entrons dans la louange, dans l'action de grâce. À chaque fois que Dieu nous donne, soyons surpris au fond des cadeaux que Dieu nous fait. Méditons la parole et gardons-la dans les cœurs, faisons mémoire, ravivons notre mémoire. Alors je vous donnerai un petit exemple d'un moine voisin, puisque c'est la fête des vies consacrées, on peut citer un moine qui habitait à 30 km d'ici, le père Jérôme de l'abbaye de Céphons. Et le père Jérôme invitait invite, puisqu'ils sont tous en train de le faire, c'est 90 moines dans le monastère, vous les voyez toujours avec leurs livres dans les yeux et tout ça, à écrire ce qu'il appelle les tisons. Vous savez ce que c'est qu'un tison? Eh bien, dans le feu, eh bien, pour raviver les braises, on a besoin de tisons. C'est le fond. Qu'est-ce qui reste au fond quand tout le feu s'éteint et les braises, il n'y a pratiquement plus grand-chose? C'est des braises vives, les tisons. Et donc, il dit, quand vous lisez un texte et que cette parole-là, elle vous touche le cœur, écrivez cette parole sur un carnet, la parole qui vous touche le cœur, pour qu'au moment où vous serez dans les ténèbres ou dans l'agonie, où vous ne sentirez plus rien, vous rouvriez votre carnet, votre fameux carnet à tison, et là vous allez, tout de suite le cœur sera vif. Vous voyez? La mémoire, comme Marie. Voilà. Et puis avec saint Claude, travaillons cette confiance et cet abandon en Dieu, cette confiance absolue dans la volonté de Dieu, comme dirait saint Paul, cette foi que rien ne pourra nous séparer de l'amour du Christ. Alors dans l'heure sainte, on va vivre cette heure sainte, on va accompagner Jésus, lumière du monde qui entre dans les ténèbres, mais on va accompagner plus largement le Christ, on va accompagner le corps du Christ aussi. Et nous puissions être en communion avec tous les membres du corps mystique du Christ, et notamment ceux qui vivent l'agonie encore aujourd'hui, les membres souffrants du corps. On peut nous unir à tous les agonisants, à tous les malades, à tous ceux qui sont dans les ténèbres, qui sont image du Christ souffrant, qui sont unis à Jésus souffrant. Et nous voulons passer cette heure avec eux. Nous voulons vivre cette heure pour eux aussi, comme nous la passons avec le Christ dans ce mémorial de cette agonie. Nous, non seulement on veut accompagner Jésus, mais on veut aussi, avec Jésus, descendre dans les ténèbres. Jésus, c'est le Verbe fait chair qui est venu briller dans les ténèbres. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, Jésus, comme il le dit à Marguerite Marie, intercède avec moi pour les pécheurs. Intercède avec moi pour les pécheurs. Nous voulons seulement, non seulement nous approcher de Jésus et de tous ceux qui sont dans la souffrance, mais aussi nous approcher des ténèbres que le Christ a rejoint dans cette intercession. Tous ceux qui sont dans les ténèbres de l'esprit, ceux qui voient plus le sens de leur vie, ceux qui se sont écartés de la lumière aussi et que Dieu est venu chercher, tous ceux qui sont loin de nous, peut-être toutes les intentions déjà que nous voulons porter dans notre cœur, les gens de nos familles ou autres. Vous voyez, mais on veut aller plus loin encore avec Siméon quand il nous dit que Jésus est la lumière pour éclairer les nations. On veut rentrer dans cette intercession pour les nations dans cette heure. Voilà, prier pour les nations, prier pour les pécheurs, prier pour ceux qui sont dans les ténèbres du péché, pour prier aussi, mais pas seulement en prenant de haut les pécheurs, prier dans une solidarité avec les pécheurs. Seigneur, je ferai savoir combien vous êtes bon pour les pécheurs. Vous voyez, non pas une intercession du pharisien qui est bon et qui lui au moins jeûne 3 fois par semaine et qui, voilà, nous avons conscience comme saint Claude que nous ne sommes que des pécheurs et nous voulons porter les pécheurs. Dans cette descente dans les ténèbres, Jésus dit, enfin le prologue nous dit que les ténèbres n'ont pas saisi la lumière, ils n'ont pas saisi Jésus. Alors, saisi en tant qu'ils ne l'ont pas pris. Vous voyez, Jésus est rentré dans les ténèbres, et dans les ténèbres, il ne s'est pas laissé prendre, il est demeuré le Fils bien-aimé du Père. Il a pu continuer à faire la volonté du Père, il n'a pas été pris. Nous, des fois, on est pris, enfin, faut reconnaître, hein, et on se plonge dans sa miséricorde, mais Jésus, lui, n'a pas été pris, il ne se perd pas dans cette fragilité extrême qu'il est en train de vivre. Et nous sommes invités aussi à rentrer dans ce chemin. J'aimerais vous rappeler cette parole de saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 4, la première Épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 11. « Jusqu'à l'heure présente, nous avons faim, nous avons soif, nous sommes nus, maltraités, errants. Nous nous épuisons à travailler de nos mains. » Vous voyez, nous sommes dans cette fatigue humaine. « On nous insulte et nous bénissons. On nous persécute et nous l'endurons. On nous calomnie et nous consolons. Nous sommes devenus comme l'ordure du monde, jusqu'à présent l'universel rebut. » Vous voyez, les ténèbres peuvent nous prendre, nous engluer, et avec saint Paul dire « Non, tu me maudis, et moi je veux te bénir. Tu me critiques, et ben moi je veux dire du bien de toi. » Vous voyez, on nous calomnie et nous consolons, on nous persécute et nous l'endurons, on nous insulte et nous bénissons. Vous voyez, de ne pas nous laisser saisir aussi par les ténèbres. Et puis aussi, saisir, vous savez, ça a 2 sens aujourd'hui. Non seulement je ne me suis pas laissé prendre, mais ils n'ont pas saisi, ils n'ont pas compris. En fait, Jésus est descendu dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont rien compris. On ne comprend pas Jésus. Et nous aussi, des fois, on peut ne pas être compris. Et nous rappeler ces autres paroles de Jésus en Jean 15, « Si le monde vous hait, sachez que moi aussi, il m'a pris en haine avant vous. » Si vous étiez du monde, le monde aimerait son bien. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, puisque je vous ai tiré du monde, eh bien pour cette raison, le monde vous hait. Et puis il dit un peu plus loin, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, vous aussi ils vous persécuteront. S'ils ont gardé ma parole, la vôtre aussi ils la garderont. Ce double aspect positif de « Ah mais Seigneur, je suis dans l'épreuve, je suis dans la nuit, je ne sais plus où tu es. » Ah mais Jésus, tu as vécu la même chose. Et « Ah Seigneur, je vois la chance d'avoir ces consolations en ce moment. » Ben oui, je m'unis à toi, et dans la joie et dans les ténèbres. À la fois, on est au cœur des ténèbres, à la fois on n'est pas compris, et à la fois on n'est pas saisi. Nous ne sommes pas pris dans l'élan du monde. Et s'il nous arrive d'être saisis, on revient à cette miséricorde, source de Dieu. Dernier point, dans cette heure sainte, si nous accompagnons Jésus dans les ténèbres, si avec Jésus nous rejoignons les ténèbres, eh bien, par Jésus, nous nous laissons rejoindre lorsque nous sommes dans les ténèbres. Vous voyez, pour nous aussi, on peut être dans les ténèbres pour beaucoup de raisons. On ne voit pas la lumière, on ne comprend pas, on ne comprend pas toujours les plans de Dieu sur nous. Et c'est un peu comme lorsque nous sommes dans une pièce sombre le matin au réveil et qu'on ouvre les volets en grand, on a fait la grasse matinée, le soleil s'est déjà levé et le réflexe, c'est de fermer les yeux. On ne supporte pas la lumière. Quand je suis dans les ténèbres, je ne comprends pas, je comprends pas, vous voyez ? J'ai besoin de m'adapter à cette lumière, ça prend du temps. Et nous, des fois, on ne comprend pas, on est dans quelque chose, on ne comprend plus la lumière. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas plus beau à accueillir, vous voyez ? Et bien souvent, voilà, le fait d'être pris dans le monde, on n'arrive plus à comprendre les choses de Dieu. Et donc, dans ce cas, si on est pris aussi dans les ténèbres du péché et qu'on a besoin de la lumière du Christ, j'aimerais vous redonner ces paroles de Saint Claude sur l'humilité. Toujours encore belle et provocante, mais là, c'est une provocation un peu qui va le faire, il va provoquer le bon Dieu lui-même. Si je dis que non seulement il n'est point de péché si énorme que les plus grands saints ne puissent commettre, mais qu'il en est très peu que les grands saints n'aient pas commis. Il y a très peu de péchés que les grands saints n'ont pas commis. Étonnant comme manière d'aborder le problème. Effectivement, je me sens saisi de crainte quand je pense que c'est une vérité de foi que même les gens de bien peuvent se précipiter dans les derniers dérèglements. Peu s'en faut que je me tienne déjà tout pour perdu et je n'ai point de peine à me compter parmi les plus grands pécheurs. Vous voyez, il l'inverse. Au fond, la place normale pour moi, c'est d'être un pécheur. Vous voyez, c'est évident. Et vous ne croyez pas, il complète. Quoi ? David, l'homme selon le cœur de Dieu, est devenu adultère et parricide. Salomon, le plus sage, le plus éclairé, le plus religieux de tous les princes, a adoré les idoles d'or et d'argent. Saint Pierre, le chef des apôtres, la pierre fondamentale de l'Église, a renoncé Jésus-Christ. Je trouve dans l'histoire de l'Église des martyrs, des corps à demi brûlés, à demi mangés des bêtes. C'est un peu, voilà, c'est la joie de Claude de rentrer. Ça vous fait pas rire, mais je trouve ça comme manière de parler assez extraordinaire. Enfin, c'est très original. Et je trouve, voilà, même si ça, y a une réalité aussi aujourd'hui qui nous invite à un peu de retenue. Je trouve donc dans l'Église des martyrs qui se sont laissés surprendre aux ruses de l'ennemi, des anachorètes consumés de jeûne, qui n'ont pas pu résister aux attraits de la volupté. Hélas, Seigneur, c'est sa conclusion, l'objectif c'est pas de se dire, Seigneur, si David et Salomon et Pierre et tous les autres n'ont pas réussi, moi ça sert à rien que je commence le chemin. On pourrait voir ça comme ça, le découragement. Et sa réponse est tout autre. Hélas, Seigneur, ne nous exposez pas aux tentations, car comment ne plierons-nous point autant de braves où vos plus grands serviteurs ont succombé ? Il revient, il se replace dans les mains de Dieu en disant « Seigneur, si vous n'êtes pas là, si David n'a pas réussi, comment voulez-vous que je réussisse ? Alors Seigneur, c'est à vous de tout faire. Oui, apprenez-moi le parfait oubli de moi-même et c'est à vous de tout faire. » Donc si nous sommes aussi nous-mêmes dans les ténèbres, eh bien comme Saint Claude, crions vers Dieu en confiance en disant « Mais Seigneur, tu vois bien qui je suis. Je ne suis rien, donc c'est à toi de venir à moi. » Alors frères et sœurs, en cette heure sainte, nous allons maintenant vivre cette heure sainte dans ce double mouvement d'être avec Jésus et d'intercéder avec Jésus pour les pécheurs. Nous allons accueillir sa présence ici dans cette chapelle où Jésus est apparu à Marguerite Marie. Et nous allons l'adorer pendant une heure et suivre pas à pas l'évangile de l'agonie de Jésus dans Saint Marc au chapitre 22.